Ce matin, c'est la conclusion de notre série saison. Le dernier message de 5 semaines. Vous dites, habituellement, il y a 4 saisons, mais des fois, on aimerait ça avoir une saison supplémentaire, une saison bonus. Et c'est ce que je vous offre ce matin, la saison bonus. Et on va relire le texte de base dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 13, qui dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si l'homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et ce matin, à la conclusion de cette série-là de saison, on a vu plusieurs éléments de comment justement laisser partir une saison, comment accueillir une nouvelle saison, comment avoir de la résilience, de la persévérance pour vivre dans une saison difficile. Ce matin, je veux vous parler de renaissance. Souvent, après avoir passé une saison difficile, ou peu importe, dans une saison qu'on peut vivre, il y a toujours un moment de renaissance. Il y a toujours, souvent, bon, là, on s'en va pour plusieurs dans la pire période de l'année, après Noël. Tout le monde est content à Noël, mais à partir de janvier, ça devient difficile jusqu'à avril pour plusieurs personnes. Il fait froid, les tempêtes de neige, la pluie en hiver avec le verglas. Ça, c'est non, faut se le dire. La pluie, été, automne, printemps, l'hiver, c'est de la neige, mais pas d'autre chose. C'est soit rien, mais de la pluie, c'est épouvantable. On est tous d'accord là-dessus. Je pense pas qu'il y a personne qui tripe sur la pluie. Puis ce matin, j'ai juste failli me planter 4 fois en sortant de chez nous. C'est fantastique. J'ai failli arriver avec un écharpe ou quelque chose. Puis après ça, on arrive au printemps, justement, qui annonce la renaissance. Et avec la renaissance, c'est savoir avancer dans la prochaine saison, la saison qui s'offre à nous. Dans vos vies, vous êtes rendus, et peut-être que vous êtes dans l'attente, ou peut-être que même présentement, vous entrez dans une nouvelle saison. Et comme on l'a mentionné pour Mosaïque, bien dans les prochains mois, ça va être un moment de transition pour entrer dans une nouvelle saison. Et laissez-moi vous laisser quelques indices pour vous aider à cette renaissance-là et être capable d'avancer dans la prochaine saison. La première chose, c'est pratiquer le sabbat, le repos, la connexion, le ressourcement. Dans Genèse 2, les versets 1 à 3, et là on comprend à ce moment-là l'importance que ça a si c'est quelque chose qui est là depuis le début de l'humanité. Ça dit « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. » Et si Dieu, on va s'entendre, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de se reposer, c'est Dieu. Il n'y a pas besoin de... Dieu est là 24-7, il est là de toute éternité, il n'y a rien qui est à son épreuve, il ne perd pas courage, il n'est pas fatigué, il ne se lasse pas, il est là. Mais malgré tout ça, Dieu décide de prendre plaisir de son œuvre et de prendre une journée pour juste admirer toute la création qu'il vient de faire. L'artiste veut juste prendre plaisir dans son œuvre. Et ça devrait nous interpeller. Et on dirait que dans la vie, dans le monde qu'on vit, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Et on est tous dans un engrenage et on dirait que tout le monde nous pousse à aller plus rapidement puis à être plus en plus occupé. Et on en vient que si on s'arrête, on se sent semi-coupable. Hein? Et si on ne se sent pas coupable, il y a quelqu'un qui va nous faire sentir coupable. C'est vrai. Et s'il n'y a pas des gens qui vont nous faire sentir coupables, on va regarder des gens, soit à la télé, on va regarder des gens sur les médias sociaux qui sont tellement occupés qu'on va se dire « Hey, je peux pas faire ça. Guette, as-tu vu telle personne, toutes les activités, toutes les choses qu'elle fait, je peux pas m'arrêter. » Mais pour l'être humain, si Dieu a déclaré ça, il dit « Ça prend du repos, une connexion avec le Créateur et sa création. » Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, ça dit, Jésus va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Souvent, on entend, voici tout ce qu'il faut que tu fasses pour être un bon chrétien. Voici tout ce qu'il faut que tu mettes en place dans ta vie. Et à un moment donné, ça devient, moi en tout cas, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, et là, j'ai commencé à fréquenter une église, puis il y avait des gens, puis là je me suis vite rendu compte, voici toute la liste des choses qu'il faut que tu changes dans ta vie. Voici toutes les choses maintenant qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Et je suis arrivé à un point, à un moment donné, où suivre Jésus, c'était plus un fardeau qu'une joie. Vrai? Et des fois, il y a des gens qui laissent Dieu parce que le suivre, c'est devenu un fardeau. Si c'est un fardeau de suivre Jésus, c'est parce que tu ne suis pas Jésus. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Parce qu'ici, Jésus a dit, si tu es fatigué, si tu es courbé, si tu es un fardeau, je vais te donner du repos. C'est ça que Jésus dit. Il dit, je ne t'en rajouterai pas sur tes épaules. Je ne te mettrai pas 72 exigences pour que tu pètes aux frettes en bon québécois. Excusez pour les gens qui ne sont pas, vous êtes nouveaux arrivants, péter aux frettes, là, ça veut dire que je suis cassé. Je sais pas quoi d'autre dire, je suis cassé. Mais c'est ça. Et ici, dit, Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. Et les gens en ont assez de l'Église et de Dieu, parce que pour eux, Dieu, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui a un regard méchant, c'est quelqu'un qui va te faire sentir la honte et va te mettre un fardeau de plus. Et les gens dans la vie, justement, on vient de mentionner à quel point aujourd'hui on n'a pas besoin de se faire rajouter un fardeau par-dessus. Et là, quand on arrive avec Dieu, avec l'Église, là, ça devient, pour les gens, c'est comme, j'ai pas besoin de ça, en plus du reste, by the way. Ça devient contraignant. Mais Jésus dit, moi, je t'enlève ton fardeau. Moi, je suis doux et humble de cœur, viens à moi. Si tu es fatigué, si tu es chargé, viens à moi. Et si Jésus enlève, si tu as encore un fardeau, c'est parce qu'il faut que tu viennes encore à Jésus. Et peut-être que ce n'est pas le bon Jésus que tu suis. Et des fois, on suit le Jésus de d'autres personnes qui, eux, se plaisent à mettre des fardeaux sur la vie des gens. Mais si on vient à Jésus, Jésus est là pour enlever ce fardeau-là. Dans Marc 6, versets 30 à 31, j'aime beaucoup ce passage-là, ça dit, « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Assez surprenant, parce que Jésus sait très bien qu'il lui reste quelques mois avant la croix. Et là, il aurait pu dire, là, on donne un blitz, les gars, là. On met les bouchées doubles, let's go, on fait de l'overtime, là. Vous allez être payé temps double. Plus de pain, plus de poisson, c'est ça, temps double à l'époque. C'était ça, être payé temps double. C'est pour ça la multiplication des pains et des poissons. Non, ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave. C'était dans ma tête. J'ai failli tomber plusieurs fois ce matin, fait que je suis un peu déstabilisé. Mais, et là, les disciples sont tous excités pour dire à Jésus, « Voici ce qu'on a enseigné, voici ce qu'on a fait pour toi. » Tous les trucs qu'on a fait pour Jésus. Et Jésus, au lieu de juste dire, « Yes, OK, toi, Pierre, t'as fait ça. » De faire un track record, puis de faire un tableau Excel, De tout ce que les disciples avaient fait, puis de faire, ouais, OK, mais toi, tu n'as pas ton rendement cette semaine, tu es en dessous de deux personnes qui ont accepté Jésus. Là. La semaine prochaine, il faut que tu en fasses quatre. Là. C'est assez étonnant parce qu'il dit, OK, les gars, c'est beau, félicitations. Là, ce qu'on va faire, là, on va aller à l'écart de tout ce monde-là parce que là, c'est infini, c'est interminable. Partout où on va, on est assaillis, les gens, ils ont des besoins et tout ça. Et malgré tous les besoins, malgré toutes les demandes, malgré tout, Jésus dit à ses disciples, « Là, on a besoin de se reposer. Vous n'avez même pas le temps de manger. » Parce que le Fils de Dieu, ben, il sait que son Père, il a dit, « Ça va te prendre du temps à part pour te reposer, pour te grounder à nouveau, pour te reconnecter. » Et là, il voit ses disciples aller, puis il dit, non, on va s'en aller à l'écart. On va juste prendre du temps, du bon temps, pour jaser ensemble, puis de juste voir Jean, Jacques, avez-vous écouté le Canadien cette semaine? Non, c'est pas grave, vous n'avez rien manqué. Moi, puis le Canadien. Emily Freeman a dit, j'aime beaucoup ça, ça dit, assieds-toi sur un banc, compte les étoiles et laisse ton âme respirer. Wow! Quand est-ce qu'on fait ça? S'asseoir sur un banc, compte les étoiles. T'en as pour un bout, là. On s'entend? Et laisse ton âme respirer. Parce que souvent, on a la conception que voici tout ce qu'il faut que je fasse, puis j'en fais jamais assez. Au final, c'est ça qui se passe, là. On regarde d'autres croyants, on regarde des missionnaires, on regarde des gens, puis on n'en fait jamais assez. Puis c'est comme si, à quelque part, même si ce n'est pas ça qu'on dit, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, on est en train un peu de gagner notre ciel. De gagner la faveur et l'amour de Dieu avec tout ce qu'on fait. Et quand Dieu lui-même, septième jour, s'est arrêté, puis nous dit, maintenant, il y a un moment pour juste t'arrêter, puis tu ne fais rien. Tu t'assois sur un banc, compte les étoiles, admire, fais ce que j'ai fait. Je me suis arrêté pour admirer ce que j'ai créé. Maintenant, c'est à ton tour de t'arrêter et d'admirer ce que j'ai créé. Laisse ton âme respirer. La deuxième chose, c'est enlève ce qui t'empêche d'avancer. Et ça, c'est dans le pas facile, là. Parce que là, quand on s'arrête, on peut s'arrêter sur le banc et commencer à méditer sur la saison dans laquelle on est dans notre vie. Et de peut-être on est dans une période justement de renaissance, puis là on se rend compte que oui, on veut avancer, mais il y a des éléments dans notre vie qui font en sorte qu'on ne peut pas avancer. On est bloqué là. Et pour pouvoir continuer d'avancer, il y a des éléments dans notre vie qu'on doit enlever. Proverbe 8, 12 dit, « Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. » Wow! Moi, la sagesse, j'habite le discernement. Et s'il y a bien dans un temps, un moment, une saison dans laquelle on vit aujourd'hui, ce qu'on a de besoin, c'est de discernement. Il y a tellement de voies qui nous proposent tellement de choses. Il y a tellement de gens qui peuvent nous proposer tellement de choses. On peut tellement regarder à gauche et à droite et espérer la vie de quelqu'un ou espérer la saison. Des fois, on peut envier la saison de quelqu'un. Mais on a besoin de discernement pour nos vies et pour notre propre vie. De savoir où je suis maintenant et qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever pour avancer. Parce que des fois, on peut avancer lentement parce qu'on traîne tellement de trucs avec nous. Encore une fois, Mme Freeman dit, « Si tu as une hésitation dès le début, le petit drapeau rouge n'ira pas en diminuant. Les minuscules drapeaux rouges ne fouleront jamais, ils vont seulement grandir. » Wow! Aïe, aïe, hein? Et c'est bien. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, « C'est tellement vrai. » Tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose ou quand quelqu'un qui te propose, peut-être ça peut être, des fois, tu sais, il y a des gens qui arrivent devant un emploi et ils se font offrir un autre emploi, puis là, lequel choisir ou telle situation, telle, et là, ça devient un peu stressant, puis là, on est encore plus stressé parce qu'on veut être sûr de ne pas faire la mauvaise décision. Et des fois, il y a des trucs qui ne sont pas très des grandes décisions dans la vie, là, qui ne changeront pas ta vie, comme ce matin, quel gilet, quelle chemise tu vas mettre. Tu sais, Just et moi, on s'est appelé puis on s'est dit, « Qu'est-ce que tu mets, matin? » On ne s'est pas appelé, mais c'est le même. Mais, et ça ne changera pas notre vie. Mais il y a tellement de décisions. Et des fois, si on est honnête puis on regarde, on arrive à se croiser là et à faire des choix, il y a un petit drapeau rouge à l'intérieur. Des fois, qui fait comme... Et des fois, savez-vous quoi? J'aimerais vous suggérer que des fois, que le petit drapeau rouge, c'est le Saint-Esprit qui vient nous souffler que... Peut-être pas si une bonne décision que ça. C'est peut-être pas ça. Puis des fois, c'est pas. On cherche tout le temps la grande conviction, puis que Dieu nous parle comme ça, mais des fois, justement, le petit drapeau, s'il y a un petit drapeau rouge à quelque part, bien peut-être que pose-toi plus de questions sur ça. Parce que le petit drapeau rouge, avec le temps, il va juste augmenter. Il va juste devenir plus gros. Puis il va être juste peut-être l'obstacle que tu aurais dû enlever il y a longtemps. Dans Galates 5.1, justement, l'apôtre Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Plus loin, il va dire, « Galates, vous couriez si bien, qui vous a empêché, qui vous arrête dans votre course, qui vous empêche de courir? Vous couriez bien. » Il dit justement, il dit, « Jésus vous a appelé justement à la liberté, vous a enlevé le fardeau. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, pourquoi vous vous remettriez des fardeaux, vous retourneriez vers un esclavage? » Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quel fardeau que je porte que je ne devrais pas porter? Dans quel esclavage je suis présentement que je devrais sortir parce que c'est ça qui m'empêche d'avancer? Parce que Christ nous appelle à la liberté pour nous rendre libres de tout ça. Pas pour rajouter des fardeaux, mais pour en enlever. Le Proverbe 4:23 qui dit justement, « Par-dessus tout, surveille ton cœur car il est la source de la vie. » J'aime bien la traduction du français courant qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends le temps de regarder les petits drapeaux rouges. Prends le temps de demander au Saint-Esprit de justement te montrer ces petits drapeaux rouges-là, de montrer là où toi-même tu t'es mis un fardeau, peut-être que tu as accepté le fardeau que quelqu'un a posé sur tes épaules que tu ne devrais pas porter. Et souvent, c'est ça. Souvent, malheureusement, c'est qu'il y a des gens, il y a des situations dans la vie qui sont venues déposer des fardeaux sur nous. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a juste simplement acceptés. Et malheureusement, il y a des gens qui traînent ça toute leur vie. Ils traînent des fardeaux qui sont pas les leurs. Ils traînent des difficultés, des problèmes qui sont pas les leurs parce qu'ils traînent ce que quelqu'un d'autre a mis sur leur vie. Et des fois, on n'est pas plus fin que les autres, on s'en rajoute par-dessus. On fait comme les Galates, on se remet nous-mêmes dans une sorte d'esclavage. Mais Jésus dit, viens à moi, je vais te donner du repos, je vais te libérer de tes fardeaux, je vais te rendre libre. C'est ça Jésus. Jonathan Nyquist a dit, décide qui tu suis dans ta vie. Ne suis plus une tonne de monde. Quelquefois, fais de ton monde un endroit silencieux, spécialement quand les choses sont difficiles ou lorsque tu as une décision difficile à prendre. Fais de ton monde un monde silencieux. Le banc contre les étoiles. Demande au Saint-Esprit de venir te donner du discernement pour là où tu es rendu dans ta vie, pour être capable de passer à la prochaine, pour être capable de marcher dans cette saison-ci, pour être capable de pouvoir retrouver la renaissance dans ta saison. Ce que Jésus veut te donner. S'engager et être présent. Pour pouvoir avancer, il faut s'engager. Il y a rien qui, si on s'engage dans rien, il n'y a rien qui va fonctionner dans notre vie, vrai? Oui? Non? Oui, OK. Je suis sûr qu'on est à la même place. On n'a pas le choix de s'engager. Parce que si on s'engage, moi je connais rien qui fonctionne sur le pilote automatique ou juste sur le neutre, à part les Tesla. Mais je ne veux pas conduire de Tesla. Mais sinon, il faut s'engager pour pouvoir avancer dans la saison. Et laissez-moi vous dire que là, la saison qui s'en vient pour l'Église, c'est pas le temps, je l'ai mentionné il y a quelques dimanches, j'étais là, c'est pas le moment de dire, oh, ben là c'est un bon moment pour d'aller se magasiner une Église. Je déteste ça. Ce mot-là, mais c'est quelque chose qui est vrai, là. De dire, oh, ben là, c'est le temps de prendre la sortie de secours puis se pousser. C'est peut-être plus le temps de s'engager et d'être présent dans la prochaine saison. Parce que si je me désengage, si je ne suis pas présent, je ne pourrai pas expérimenter qu'est-ce que Dieu a pour moi et pour la prochaine saison. J'ai besoin de m'engager. Et dans Romains 12, le verset 3 à 6, ça dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Ici, ça ne dit pas de quantité, mais ça dit d'être présent, de faire partie du corps, d'être là, d'être engagé avec pas ce que j'espérais avoir ou ce que envier ce que l'autre a, mais qu'est-ce que Dieu a déposé dans ma vie, le don que Dieu m'a donné, qu'est-ce que Dieu m'a donné. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. J'aime bien ici Marc 12, les versets 41-44, qui dit « Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle mit 2 pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et c'est assez étonnant parce qu'ici, Jésus ne va pas faire la nomenclature de « Oh, toi, tu as donné beaucoup. » Cette personne-là, elle vaut beaucoup plus dans le royaume de Dieu parce qu'elle a donné beaucoup. C'est pas... et Jésus va renverser ça. Il dit « Qu'est-ce que tu as? » Autant dans tes dons, les talents que tu as donnés, dans tes capacités physiques, intellectuelles, que financières, qu'est-ce que tu... Comment tu es engagé? Qu'est-ce que tu donnes? Et qu'on le veuille ou non, demain... Quand moi je ne serai plus là, il va y avoir un autre pasteur. Ce n'est pas ça qui va faire toute la différence, qui va tout changer. Ça va être mieux à quelque part, je le sais, là. Mais, il faut être honnête, il va y avoir des améliorations. Mais s'il est là tout seul, ou seulement avec l'équipe pastorale, ça ne changera rien. Si on est désengagé, ça n'avancera pas. Aussi extraordinaire Michael peut être, ça ne changera rien. Ça dépend, comme on vient de le lire dans Romains, ça dépend de la partie de chacun. Et si Jésus va faire l'éloge de cette veuve qui n'a presque rien mis, il dit des toutes petites pièces, des grenouilles, mais Jésus va dire ça, là, waouh! Parce qu'elle, c'est tout ce qu'elle avait et c'est ça qu'elle a donné. Et ce n'est pas le temps de retirer tout ce qu'on a, c'est plutôt le temps de justement donner. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et autant financièrement. C'est-à-dire, c'est peut-être le temps, justement, je ne me suis pas jamais engagé financièrement envers l'Église, c'est peut-être le temps de le faire. Parce que qu'on le veuille ou non, ça prend des dons, ça prend des talents, et ça prend de l'argent pour que l'Église avance. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas d'une personne. Même si demain matin, il y a un millionnaire qui arrivait ici, ce n'est pas lui qui va tout faire, qui va tout changer. C'est la contribution de la part de chacun, comment chacun peut apporter. Dans Marc 14, les versets 16 à 17, Jésus leur a répondu, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais lui dire, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Et on connaît tous le reste de l'histoire. Il a dit, 5 000 hommes, à part les femmes, les enfants. Écoute, il y avait des milliers de personnes, et ils ont réussi à nourrir ça avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi? Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Il a dit, « C'est ça que vous avez, c'est tout ce que vous avez à m'apporter. » Fine. On va le faire avec ça. Jésus n'a pas inventé un repas. C'est tout ce qu'on leur a apporté, c'est ce qu'on a présentement. Et Jésus fait avec ce qu'on a. Il ne fait pas avec ce qu'on n'a pas. Mais il faut lui apporter ce qu'on a pour qu'il puisse le multiplier. C'est ça le point. Et ce qu'apporter le peu qu'on a, c'est d'être engagé, c'est d'être présent. C'est d'être là. De faire partie du corps. Encore une fois, Mme Nyquist dit, j'ai décidé que ce que Dieu me demandait et ce qu'il nous demande, et que chacun de nous, nous nous montrions au corps de Christ comme qui nous sommes vraiment, peu importe ce que cela veut dire, peu importe nos dons, peu importe nos faiblesses, peu importe nos rêves, peu importe notre appel, peu importe ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on, nos rêves ou nos échecs, ou peu importe, Dieu vient te présenter tel que tu es. J'aime ça, l'idée de te présenter au corps de Christ tel que tu es, et avec seulement ce que tu as, et de voir qu'est-ce que Jésus va faire. Parce que quand tu tiens l'écart, quand tu retiens ce que Dieu a placé dans ta vie, quand tu retiens ce que tu pourrais donner, bien, il ne se passera rien. c'est pas compliqué. Jésus nous lance l'invitation de faire partie du corps, de juste être présent et de juste lui apporter ce que l'on a. Pas lui apporter ce qu'on n'a pas. Ce que l'on a et pas comparer avec l'autre qui semble avoir plus de dons, plus de talents, plus de finances, plus de ci, plus de ça. Jésus, c'est pas comme ça qu'il calcule. Il calcule, c'est chacun. Chacun selon son cœur. C'est ça que Jésus regarde. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et dernièrement, célébrer ce qui a à être célébré. Et ça, c'est la partie facile quand il y en a plein de choses à célébrer. Alors, on a une bonne chose à célébrer. Là. L'Église rentre dans une nouvelle saison qui risque d'être palpitante, du nouveau. Qu'on le veuille ou non, on a de la difficulté en tant qu'être humain avec le changement, mais on aime ça le nouveau. On aime ça quand il y a quelque chose de bien et de nouveau qui arrive, c'est excitant. Puis on veut juste, des fois, quand on débute un nouvel emploi, quelque chose, tout est nouveau, puis on fait comme, hey, yes! Comme un enfant à Noël. Juste comme, yeah, Noël arrive. Mais des fois, quand ça va moins bien, peu importe la saison dans laquelle vous traversez, des fois, ça peut être plus difficile de célébrer ce qui va être célébré, mais on a besoin de le faire pour garder espoir. Dans Ecclésiaste 3, les versets 12 à 13 qu'on a lus en tout début, ça dit, « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Si l'Ecclésiaste est en train de nous dire, c'était le roi Salomon. Et ça dit que le roi Salomon, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un des hommes qui a eu la plus de richesse. Il y avait tout par-dessus tout, par-dessus tout. C'est de l'exagération à côté. Et quand il écrit l'Ecclésiaste, c'est vers la fin de sa vie où il a pris ce moment-là. Il a pris le banc de parc. Il a décidé de s'arrêter, commencer à compter des étoiles, mais il a commencé à regarder sa vie. Et il a commencé à regarder tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il a pu posséder, tout ce qu'il a pu avoir, tout ce qu'il désirait avoir. Puis là, j'ai tout passé, j'ai tout eu. J'arrive au bout où j'ai fait le tour, là, sérieux. Et c'est là qu'il va réaliser qu'il y a beaucoup, énormément de toutes ces choses-là qui étaient inutiles. Il va arriver même au point de dire « Tout est vanité des vanités et poursuite du vent. » Ouf! Pour un gars qui a tout eu, là. Et il va revenir à quelque chose d'aussi simple que j'ai réalisé qu'il y a plein de petites choses dans nos vies qu'on a besoin de célébrer. Et que c'est là où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans les petits moments de notre vie. Dieu se trouve dans... Il dit, si un homme mange et boit, fait que ce midi, si vous avez un dîner, bien Dieu est là. Puis Dieu veut prendre plaisir en vous, dans votre dîner, dans votre souper, dans votre travail. Si tu prends plaisir dans ton travail, c'est un cadeau de Dieu. Peu importe la saison dans laquelle vous vivez, d'être capable de chercher, de creuser pour trouver qu'est-ce qu'il y a à célébrer dans ma vie présentement. Et même si c'est difficile. Dans la Matthieu 3, les versets 21 à 23, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Si c'est Jérémie, où les gens sont, le peuple a été emmené captif, la ville est à feu, à sang, tout est détruit, le temple est détruit, il n'y a plus rien. Et au milieu de tout ça, Jérémie va faire, il faut que je trouve quelque chose à célébrer parce que là, c'est épouvantable. Et quand tu t'écris un livre qui s'appelle « Lamentation », on est loin des coachs de vie. Là. Pas trop dans le positif, tu n'es pas trop le secret. Là. Hein? La loi de l'attraction, on n'est pas trop là. Il est comme « ouf ». C'est là que je suis, dans la lamentation. C'est ça qui... Et à travers ça, il va dire « ouais, il faut que je veux méditer pour garder espoir ». Lui aussi est obligé d'aller s'asseoir sur un banc de parc puis regarder tout ça puis faire comme « Oh, c'est un saccage, c'est pas tant la meilleure saison de ma vie, mettons. » Il est obligé de dire « Je veux garder espoir. Je veux réaliser que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées puis que sa fidélité est encore présente malgré tout ça. » Je ne connais pas la finalité comme on l'a lu dans le début d'Ecclésiaste. Hein? Ecclésiaste 3 qui dit justement l'homme ne peut pas connaître l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. L'Ecclésiaste dit aussi, Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et des fois, il y a un temps juste pour garder espoir. Je termine avec cette citation de Jonathan Martin qui dit, Dieu travaille sous chaque chose. Tu peux ne voir aucun changement à la surface, mais Dieu conspire pour toi maintenant en dessous de tout cela. Et des fois, on entend des messages. Des fois, on peut prêcher et on dit, hey, là, OK, c'est bien beau tout ça. Mais moi, ça, présentement, ça ne ça résonne pas. C'est beau, mais ça ne change pas ma vie pour l'instant. Puis, et des fois, on regarde et on dit, ah, oh, ben oui, c'est sûr. Là, lui, c'est sûr que le gars en avant, le prédicateur en avant, lui, il est connecté avec Dieu. Ça, c'est sûr que tout va bien. C'est sûr que c'est fantastique. C'est sûr que tout est merveilleux. Puis lui, il ne vit pas ça. Ce que je vous encourage à faire cette semaine, c'est de faire comme Jérémie. Il fait peut-être un peu froid pour vous asseoir sur un banc de parc, mais c'est peut-être dans un café, n'importe où, quelque part. Allez-vous perdre dans la nature, c'est fantastique. Et juste arrêter. Et juste justement méditer. Et prier. Et à ce moment-là, peut-être que vous n'êtes pas dans la meilleure saison de votre vie, puis vous dites, je suis toute seule, moi, Seigneur, à vivre ça. Est-ce que moi, je suis toute seule je me retrouve un peu comme Jérémie ou comme... Et je le file pas, là. Mais lorsque vous allez prier, vous allez vous sentir toute seule, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a plein d'autres mondes. Et dont moi, où j'ai besoin de méditer sur que Dieu, pour garder espoir, pour voir qu'est-ce que Dieu peut faire encore. Que Dieu est en train de conspirer pour toi, pour moi, pendant que je ne le vois pas. Et la fin de sa conspiration, ça va être la renaissance d'une nouvelle saison. Laissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. Et on veut, Seigneur, méditer pour célébrer ce qui a été célébré dans notre vie actuellement. Même si peut-être qu'on est dans la meilleure saison de notre vie, on a tellement de choses à célébrer, puis... Amen. Peut-être qu'on vit une saison moins évidente et on cherche ce qui a été célébré. Par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à trouver, à méditer et de voir que tes bontés sont pas épuisées, que tu es toujours fidèle, que tu es toujours présent, que tu es en train de conspirer pour chacun d'entre nous. Que l'on puisse, Seigneur, par ton Saint-Esprit, on t'invite à nous donner du discernement, Seigneur, pour peut-être qu'il y a des drapeaux rouges dans nos vies, on a besoin d'enlever, il y a peut-être des fardeaux qu'on s'est mis, que des gens nous ont mis sur les épaules, qu'on a besoin de venir à toi parce que tu n'es pas celui qui rajoute des fardeaux, tu es celui qui enlève des fardeaux. Pas celui qui nous arrête, qui nous empêche, qui nous met esclaves de quelque chose, c'est celui qui nous libère. Et que l'on puisse venir au véritable Jésus, celui qui est doux et humble de cœur, pour nous donner du repos, Seigneur. Que l'on puisse accepter ce repos, qu'on puisse, Seigneur, être capable de s'arrêter comme toi, tu t'es arrêté le septième jour de la création. Pour simplement, Seigneur, mieux connecté avec toi et avec ta création, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, et pour Mosaïque, pour la suite, la prochaine saison qui s'en vient, pour une saison de renaissance, Seigneur. Et que l'on puisse pas être des spectateurs de tout cela, qu'on puisse pas être des gens absents qui s'éloignent, prennent la fuite, qu'on puisse être des gens qui sont simplement présents avec ce que tu nous as donné et ce que tu nous donnes encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ensemble, on va terminer avec ce chant.